Archives du temps présent, radiographie d'un espace vécu. Écoutez la transformation entre ville et campagne, l'empreinte de la métropole toulousaine. Prendre la voiture, ouvrir les micros, au fil des ronds-points et des lotissements, des cœurs de village et des voies rapides. Tenter de saisir quelques bribes des histoires qui se trament dans l'agglomération.
À la Gardelle, il y avait 5 épiciers.
Je suis arrivé par hasard dans cette ville en 2015.
Maintenant, il n'y a plus rien, ni boucher, rien.
C'était idéalement placé entre deux autoroutes.
Par là, c'est zone protégée.
Qu'est-ce que la transformation du quartier va changer pour toi?
Si on est encore une frontière. Ouais. Ouais.
Attends, mais parce qu'il va changer le quartier?
Épisode 2, trouver à habiter.
L'endroit où on habite est un alliage étrange. Des attachements, des souvenirs, des habitudes, mais aussi des charges, un loyer ou des traites. Selon que vous soyez riche ou pauvre, vous aurez plus ou moins de maîtrise sur ce lieu, plus ou moins de choix, et à cette géographie correspond un emploi du temps, une distance avec votre lieu de travail, avec des services, des loisirs, des commerces, qui sont autant de temps de transport, de contraintes sur votre organisation. Il existe des outils pour saisir cette réalité complexe. Le territoire et ses logiques d'acteurs, les découpages administratifs et les documents d'urbanisme, la statistique et ses catégories, les enquêtes et les recensements, les cartes, les plans et les schémas. Il y a des agences et des cabinets, des administrations régionales, départementales, municipales, nationales, des sociologues, des géographes, des urbanistes. Innombrables professionnels au chevet de l'espace qui auscultent, diagnostiquent, prescrivent. Et pourtant, malgré tous ces efforts, il reste une part d'insaisissable. L'espace se fragmente en une multitude d'expériences singulières. De ces diversités de vécu émergent des récits sans mots, ceux des pratiques quotidiennes, des lieux. Toujours, c'est une histoire complexe, où se mêlent des volontés différentes, voire antagonistes. L'aménagement urbain peut se comptabiliser en nombre de logements, en densité, en infrastructures. Il passe aussi par des histoires particulières. Aujourd'hui, nous partons d'un vieux faubourg de Toulouse, les Minimes. En 1959, y est construite une cité pour des travailleurs de la poste et du rail. Une cité ouvrière. 408 logements, très sociaux, dans un quartier politique de la ville, comme on dit de nos jours. Un endroit où des personnes peuvent trouver à se loger pour pas trop cher, à quelques minutes du centre-ville. Depuis 2017, des travaux de réaménagement sont prévus. 160 logements seront détruits, 80 construits, mais en accession à la propriété, ils visent une population plus aisée. Au-delà du projet, c'est aussi un espace de jeu, une mémoire et des vies qui s'en trouvent bouleversées.
Comment ils vont faire pour casser la cité bleue?
En fait, ils vont prendre un bulldozer, mais on sait pas, peut-être qu'ils vont tout détruire le bulldozer, parce qu'en fait, un bulldozer, c'est puissant.
J'ai un truc à vous dire, un truc très important. Il y aura plus de parts, il y aura rien. Qu'est-ce qu'on va faire?
Ils vont pleurer dans notre chambre comme ça?
Et de plus, en plus, les travaux, ils ont dit, il y a des gens qui ont dit, toi, je t'achète pas une maison, c'est toi qui t'achètes une maison. Et les pauvres, maintenant, c'est des pauvres, ils sont devenus pauvres, ils sont même pas riches.
On peut pas mettre les gens dehors comme ça devant la porte.
Non, on va être relogés, ça, ils nous l'ont dit.
Hein, mais... Oui, mais où est-ce qu'ils vont vous mettre?
C'est ça le problème.
Aux Isards et aux trucs-là?
C'est ça, moi j'ai dit non, tout ça. Donc ils savent très bien ce que je veux. Moi j'ai fait, ils ont ma fiche avec tous mes critères. Et ça, moi je négocie pas, c'est pas négociable. Il y a des choses qui sont pas négociables.
Et si vous trouvez en privé?
Non, j'ai pas les moyens.
Non, mais admettons que c'est des logements à 400 euros.
Il n'y en a pas dans le privé à 400 euros, vous avez un studio, il y a encore. Il faut pas rêver.
Vous allez à Ozone, moi j'ai une copine qui a trouvé un appartement à Ozone, 400 euros, tout neuf. Et beaucoup plus grand qu'ici, hein, à Ozone.
Il faut donc partir. S'éloigner du centre. Ce n'est pas une histoire de choix résidentiel, c'est une pression constante. Il faut pouvoir payer le prix d'un maintien dans certains lieux. C'est l'un des mécanismes qui participe à la construction de cette population périphérique qui ne choisit pas toujours de vivre en dehors de la ville-centre. Malheureusement, elle paie ensuite en temps de transport cette distance à leur lieu de travail. Mécanisme implacable qui pèse sur l'emploi du temps et le budget de milliers de personnes. À l'inverse, ces faubourgs autrefois ouvriers sont progressivement habités par des classes aisées qui ont le pouvoir de choisir là où elles habitent.
La gentrification non seulement évince, mais aussi bloque l'accès à des espaces auparavant accessibles et rend inhabitables des espaces jusque-là familiers ou hospitaliers. Bien entendu, il faut comprendre l'écheveau des circonstances personnelles, familiales, professionnelles ou liées à des transformations urbaines qui ont amené ces habitants à quitter leur logement, leur quartier ou leur ville. Et cela sans préjuger d'un schéma d'éviction induite par la gentrification. Pourtant, c'est un processus profond qui travaille le cœur des villes. La gentrification évince par la hausse des loyers ou l'expropriation pure et simple. Parfois, des propriétaires se retrouvent eux-mêmes dépossédés. Elle bloque l'accès en diminuant la surface disponible pour les classes populaires, mais aussi en rendant inhabitable par la transformation des espaces publics, des espaces familiers, appréciés ou appropriés de longue date en environnement étranger, oppressant, voire hostile. Vu d'en bas, la gentrification se ressent aussi comme une pression qui monte autour de soi, comme une menace diffuse sur ses conditions d'habitat et de vie quotidienne, ou comme des promesses faites à d'autres catégories d'habitants. D'après Mathieu Van Krikengen, contre la gentrification, convoitise et résistance dans les quartiers populaires.
C'est avec l'espace et le temps que l'on fait la chair des souvenirs. Là où on habite, là où l'on grandit, là où nous avons nos premiers amours, c'est quelque chose d'intime qui se joue dans les attachements. C'est la personnalité qui se construit par l'usage des lieux. C'est tout aussi vrai pour les collectifs. Lieux de mémoire, statues, monuments sont des éléments déterminants d'une mémoire commune. Les transformations qui sont faites sur les lieux impactent bien au-delà d'une trame urbaine. Elles sont beaucoup plus qu'un simple aménagement.
Vous habitiez rue Tunis, du coup ?
C'est ça.
Quelles années ?
Dans les années fin 80, tout 90 et début 2000.
Et pourquoi vous êtes venu aujourd'hui, là ?
Parce que j'ai appris la destruction du quartier. J'ai vu ça sur la presse. Et du coup, ça m'a fait un pincement au cœur. Et je me suis dit, tiens, il faut que je m'y rende et que je présente ça à mes enfants. C'est une partie de mon passé, quoi. Voilà. Et ici, bon, il n'y a pas ce côté-là. Ça, c'était un porche, en fait. Il n'y avait pas de mur. Alors ici se trouvait une espèce de petite supérette générale. À côté se trouvait la boulangerie. Et encore à côté se trouvait le boucher. Et enfin, au bout là, de ces commerces, c'était le primeur. Il y avait le coiffeur juste en face aussi. Là, il y a un coiffeur. Un salon de coiffure. Et voilà, et le bar rue des Anges, bien sûr. Voilà. Et c'est vrai qu'entre une chose et l'autre, les événements de la vie, on fait que... Mais j'ai pas eu l'occasion de revenir. Donc quand j'ai appris ça, voilà, ça a été la priorité. De montrer à mes enfants, avant que ce soit rasé, hélas, de montrer à mes enfants où ont grandi leur père.
J'ai vécu ça aussi quand j'étais un peu jeune. Un quartier qui s'est démoli, où j'avais habité quand j'étais petite. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des souvenirs, c'est comme un petit peu un album photo, où on se rappelle, tiens, j'ai habité ici. Et on ne pourra plus le faire, puisque bon, ce sera démoli.
Bien entendu, il y a des déménagements plus heureux, des envies de se mettre au vert, de trouver un coin de jardin, sans que cela ne soit jamais détaché de la question financière et de celle des trajets. Une sorte d'équation que chacun et chacune résout individuellement, mais qui est pourtant une question éminemment collective. C'est peut-être là l'un des facteurs du sentiment d'avoir affaire avec un phénomène naturel, parce qu'il s'impose à tous et toutes, et chacune se doit de faire avec.
On a déménagé de Toulouse pendant le confinement, avec mon compagnon et ma petite fille. On a déménagé le 1er mai pour une raison assez simple. La maison qu'on louait était à vendre à des prix défiant toute concurrence. Voilà, un truc dans le genre 500 000 euros et plus. Et évidemment, enfin non, pas évidemment, mais en tout cas nous on n'avait pas les moyens de mettre l'argent. Et ben en même temps, ça a rejoint plusieurs problématiques et plusieurs choses auxquelles on pensait, qui étaient est-ce que ça a vraiment du sens pour nous de rester en ville, alors qu'on déjà pour nous, et puis avec l'arrivée de la petite, le bruit, la pollution, etc., tout ce que la ville a de plus négatif, on se disait, est-ce que c'est bien judicieux de laisser grandir notre petite là-dedans? Et du coup, on était forcés de chercher une solution assez rapidement, on avait quelques mois. On a regardé si on pouvait acheter quelque chose, ça nous repoussait à très loin de Toulouse, enfin plus d'une heure a priori. C'était un peu flippant par rapport au travail, puisque moi je travaille en plein centre-ville. Et on a trouvé une location, une belle annonce sur le Bon Coin à Orgueil. Et voilà. Et pour le moment, la route pour aller travailler, ça peut être lourd à des moments. J'essaye le train aussi. Un peu de train, un peu de route. Et ça, c'est bien. Pour le moment, on est bien content d'être là. Lui, mon compagnon, il est à fond dans le potager. Moi, je fais ce que je peux. Et puis la petite, elle est à fond dans les tomates cerises. Et les chevaux, qu'il y a partout, dans les champs pas loin, ou les vaches le soir, qui viennent paître dans le champ à côté. Ouais.
Alors, Villaudric, c'était un petit village plein de charme, avec des papillés et des mamies qui s'asseyaient devant leurs portes sur des bancs ou des chaises pour discuter et voir passer les gens. C'était un endroit où il faisait beau, où on n'avait pas le gris de la ville de Toulouse. Et quand on a cherché de plus en plus loin de Toulouse pour trouver un endroit où créer notre petit nid de vie, on est arrivé dans ce village. On est venu une fois, deux fois, trois fois, et puis on s'est dit que c'était certainement là qu'on avait envie de rester. Villaudric, c'est aussi... pour notre cheminement de voyageurs, de migrants, d'une maison, d'une ville à l'autre. C'est aussi un point de départ pour moi qui travaille sur une autre grande ville, donc qui passe de la campagne périurbaine d'une ville au centre-ville qui se végétalise d'une autre ville. Et c'est aussi... du coup, cet endroit où je peux être à la fois en lien avec la forêt pour une partie de ma semaine et avec des centres-villes où les plantes recommencent à pousser entre les carreaux de béton, donc au centre de Bordeaux.
Au bout de 2 ans, j'ai quand même ressenti un peu le vide, l'isolement. J'ai quand même fini par ressentir ça, l'isolement d'être à la campagne, de voir que je loupais quelques opportunités en habitant en ville, à Toulouse. Parce que mine de rien, dans le monde culturel, l'aide dynamique pour trouver du boulot rapidement, il faut quand même être en ville, quoi. Malheureusement, il faut quand même être en ville. Moi, j'ai envie de lutter contre cette idée parce que j'ai refusé de monter à Paris pour trouver du travail dans le monde du cinéma. Mais quand même, Toulouse, Villemur, se taper, je sais plus combien de kilomètres, 30 bornes tous les jours, donc 60 pour aller au boulot, pour faire 4 heures de travail, c'était pas forcément rentable, quoi. Pas forcément rentable en énergie, surtout. Et en désir de travailler. Et le fait que je ne puisse pas rester, quoi. Disons que tu as des impératifs. Si tu arrives en bus à Toulouse, et du coup, tes impératifs, c'est les horaires du bus. Tu cales ton rythme sur les horaires du bus. Ça veut dire que je crois que le dernier bus était genre à 20h, tu rentres à 20h, quoi. C'est tout, tu peux pas te permettre de rester.
Et si les espaces que l'on habite ou un effet sur nous, en retour, nous avons un effet sur les lieux où nous habitons. Les manières dont on les occupe, le temps qu'on y passe, modèle la vie qui s'y déroule.
Qu'est-ce qui a changé? C'est un appauvrissement total de la population. C'est une population partagée en deux. D'un côté, nous avons ceux qui ont les moyens, qui travaillent loin et qui achètent des maisons en périphérie, finalement, du village ou de la ville, comme on veut, et qui ont du mal à venir s'occuper de la vie du village.
C'était Archives du temps présent, épisode 2, Trouver à habiter. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont prêté leur voix. Réalisation, Ariella Epstein et Américo Mariani. Avec le soutien de la DRAC Occitanie, le Conseil départemental de la Haute-Garonne, la mairie de Toulouse et le FDVA. Vous pouvez écouter les 5 épisodes sur le blog de l'ORTI, associationlorti.wordpress.com.